Vous écoutez France Culture. Aujourd'hui, Science publique par Michel Albert-Gonti.
Bonne année 2007, bonjour et bienvenue à tous dans Science publique. Pour poser des questions aux invités de nos débats ou nous communiquer vos réflexions, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Envoyer un commentaire » sur le blog de Science publique sur franceculture.com. En attendant, bienvenue dans notre 19e émission. Un art numérique est-il en train de naître ? Le numérique grignote lentement mais sûrement tous les médias. Depuis son apparition dans le grand public avec l'informatique dans les années 1970 et le disque compact dans les années 1980, cette technologie n'en finit pas de se répandre. La musique mesure l'étendue de la révolution numérique qui bouscule les ordres établis aussi bien du côté des industries culturelles que de la création elle-même. Pas à pas, l'ensemble de la chaîne de production, de la photographie, du cinéma et de la télévision se convertit également au numérique. Ne parlons pas de l'écrit engagé dans une mue douloureuse entre le papier et le web. La radio, ici même, a fait son deuil des volutes de bandes magnétiques, des ciseaux et des collants. Désormais, derrière la vitre qui nous sépare de la réalisation et de la technique de cette émission, le numérique règne en maître incontesté. Nos invités reçoivent des CD à la place des cassettes de naguère. Vous-même, nos auditeurs, podcastez de plus en plus nos émissions afin de les écouter quand bon vous semble sur vos balado-diffuseurs ou directement sur vos ordinateurs via Internet. En 30 ans, le numérique a ainsi transformé tous les domaines de l'information, de la communication et de la culture. Mais nous allons nous intéresser aujourd'hui à un aspect qui, paradoxalement, comme nous le verrons, semble encore rester à la traîne. Il s'agit de la création artistique. Alors qu'il semble constituer un instrument privilégié de production d'œuvres différentes, le numérique peine à s'affirmer comme un nouveau domaine de l'art. Même la musique électronique, très en vogue dans les années 1980, est aujourd'hui concurrencée par les instruments acoustiques. Les grands événements artistiques qui attirent les foules dans les expositions sont consacrés aux Titiens ou à Rembrandt. Les artistes qui travaillent sur les nouveaux médias sont certes souvent jeunes, mais leurs œuvres restent étrangement discrètes dans le paysage de l'art contemporain. Le numérique promettait pourtant de libérer le génie créatif du plus grand nombre grâce à la démocratisation progressive de l'ordinateur. Malgré cette discrétion, un art numérique est-il en train de naître ? Dans ce cas, comment peut-il se définir aujourd'hui ? Consiste-t-il essentiellement en une numérisation des différents modes d'expression artistique existants ou bien est-il en train de devenir une sorte de 10e ou 11e art ? S'agit-il véritablement d'un art à part entière dont donc une nouvelle corde aux arcs des créateurs ? Existe-t-il déjà des œuvres numériques emblématiques ? Quels problèmes particuliers rencontrent des œuvres lorsqu'elles sont immatérielles et reproductibles ? Ces questions, nous allons les poser à nos invités qui sont aujourd'hui Maurice Benayoun, David Guez et Stéphane Maguet. Maurice Benayoun se définit lui-même comme un artiste transmédia. Il enseigne la vidéo de création et les nouveaux médias à l'Université Paris 1 et il est cofondateur et directeur artistique du CITU, ce qui signifie création interactive transdisciplinaire universitaire. David Guez est informaticien de formation. Après avoir goûté à la peinture et à la sculpture, il a opté pour les nouveaux médias. Pionnier de la télévision sur Internet, il a créé TV Art et Téléweb. Aujourd'hui, il mène plusieurs projets, dont 2067, qui propose d'envoyer des mails dans le futur, Hypermoi et 1400 cm3, dont il nous expliquera le fonctionnement et les objectifs. Enfin, Stéphane Maguet est philosophe, il est directeur, il a été responsable du projet Deuxième Monde sur Canal+, et il est aujourd'hui directeur de la galerie Numeris Causa, qu'il a créée en 2004 avec 3 associés, afin d'aider les artistes du numérique à produire et à diffuser leurs œuvres en France et à l'étranger. Vous pouvez adresser vos propres questions à nos invités sur le blog de Science publique sur franceculture.com. Catherine Donnet les collectera jusqu'à 14h30 et nous tenterons d'y répondre dans la seconde partie de l'émission. Alors Maurice Benayoun, bonjour. Avant d'aborder vos propres créations et pour entamer un peu notre débat, je voudrais que vous répondiez à la question de fond que l'on peut se poser aujourd'hui. L'art numérique existe-t-il de votre point de vue ?
Eh bien, malheureusement, je ne vais pas apporter une réponse à cette question.
C'est dommage.
Je crois que ce qui est intéressant, c'est que justement, elle soit là pour poser la question, d'une certaine manière, de ce que c'est que l'art et de ce qui permettrait de valider comme ça les catégories.
Mais on va quand même rester sur l'art numérique, j'y tiens.
Bon, d'accord.
Donc pour vous, vous êtes un artiste, vous utilisez les nouveaux médias, etc. Et vous ne revendiquez pas donc cette expression d'art numérique.
Non, je ne revendique pas cette expression d'art numérique, car comme vous l'avez très très bien dit, le numérique a infiltré à peu près tous les domaines de la création, tous les domaines de l'action humaine, et ce ne me semble pas quelque chose de réellement pertinent en tant que catégorie. Maintenant, le numérique a eu une incidence absolument considérable sur les formes de création actuelles, et effectivement, il y a des formes qui émergent un peu de ce bouleversement, qui sont d'une nature différente et qui amplifient d'une certaine manière d'autres pratiques antérieures si on reste dans le champ de la création artistique.
Ben on va effectivement y rester et puis préciser les choses grâce à des exemples. David Guez, bonjour.
Bonjour.
Alors pour vous, même question, est-ce qu'un art numérique existe ou bien est-ce que le numérique n'est qu'une technique au fond parmi d'autres au service de différents arts ?
Dans votre introduction, vous avez effectivement essayé de différencier les arts classiques qui sont numérisés, donc qui peuvent se transmettre via un réseau numérique, via un CD, etc. etc. Je parlerai plutôt d'un art numérique dans le sens où, de mon point de vue, Internet, qui est un réseau, est pour moi vraiment un nouveau médium. Et il y a beaucoup de choses à faire avec, et j'essaie de faire beaucoup de choses avec d'autres artistes. Et je pense que... On ne peut pas dire qu'il y a un art numérique, il y a un art, il y a des questions de l'art, il y a une philosophie de l'art, il y a des raisonnements, etc. Mais je pense qu'avec l'arrivée du réseau, en tout cas moi c'est le réseau qui m'intéresse, avec l'arrivée du réseau, on peut entrer dans des projets qui sont vraiment différents, intéressants et qui vont toucher des fonctions différentes un peu aussi. Je pense notamment à pouvoir travailler avec des millions de personnes en même temps. Je dis bien millions parce que les modèles socio-économiques aussi changent et le but de l'artiste aussi, c'est de se confronter à ces modèles et de proposer justement de faire des contre-propositions avec des objets qui sont un peu différents. Donc l'art contemporain doit intégrer le numérique d'une façon ou d'une autre dans tout ce spectre qui peut aller de la musique numérisée, des photos, des échanges de vidéos. On parle beaucoup du web 2 en ce moment. Mais surtout doit poser les questions et doit essayer de comprendre les systèmes et d'en sortir, de les rendre décalés, etc. etc. Donc...
Voilà, pour préciser les choses, on viendra à des exemples, car je pense que c'est absolument indispensable pour préciser le propos. Stéphane Maguet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en position plutôt d'exposer et peut-être de vendre des œuvres numériques. Alors, pour vous, est-ce que cet art existe en tant que tel ?
Alors bon, d'abord il y a l'appellation art numérique, elle vaut ce qu'elle vaut, mais il y a plein de réserves à définir un art par sa technologie, c'est pas forcément l'idéal pour le décrire. Après effectivement il y a quelque chose qui met en jeu des différenciations par rapport aux arts plus traditionnels. Bon, c'est vrai qu'il y a, on s'aperçoit qu'à la fois les œuvres ne sont pas tout à fait les mêmes, la place de l'artiste aussi, et puis la place du spectateur. Donc il y a effectivement des différences qui sont notables. Bien sûr, ça se nuance à l'infini. Moi, je parle généralement des arts numériques quand j'accepte cette formule. Mais ce que nous, on essaye de faire concrètement sur le terrain, c'est justement d'hybrider ces arts qui utilisent des technologies avec l'art contemporain plus classique, enfin plus classique, celui qui a un peu plus de visibilité, qu'on a plus l'habitude de voir et d'entendre.
Concrètement, dans votre galerie, quelles sont les œuvres qui sont exposées, quelle forme ont-elles ?
Alors concrètement, à la galerie, il y a quand même pas mal d'œuvres à base d'ordinateurs, dont les images ou le son sont générés en temps réel, qui sont souvent le produit d'une collaboration entre des développeurs, des artistes, des électroniciens. Et puis, il y a aussi des tirages photographiques, certaines œuvres sont génératives, d'autres impliquent la présence où est la participation du spectateur. Et comme souvent, les nouvelles formes pour percer prennent des formes, le manteau un petit peu de l'ancien, on promeut aussi pas mal la photographie, numérique, pour faire passer aussi des œuvres en temps réel, pour habituer le public, pour éduquer son regard sur des choses qu'il connaît déjà pour qu'il appréhende le nouveau.
Maurice Benayoun, dans les propos de Stéphane Maguet, on retrouve assez souvent l'interactivité, le temps réel. Vous-même, vous avez donc déjà un lourd passé en la matière, en matière de création d'œuvres dans ce domaine. Il y a un petit côté événementiel dans ce que vous produisez. Quels exemples vous pourriez donner pour concrétiser un petit peu ce dont on parle aujourd'hui?
Pardon. En fait, je crois que le problème est le problème du support et le problème du médium. Il est évident que si on utilise quelque chose comme le temps réel, qu'il va falloir qu'on explique, eh bien, ce que l'on va produire est forcément de l'ordre de l'événement. C'est presque la conséquence des données propres du matériau qu'on travaille. Alors je vais quand même expliquer ce qu'on appelle temps réel, parce que très souvent la terminologie dans ces domaines qui sont aussi les domaines technologiques, la terminologie est ambiguë et on croit que les mots s'utilisent comme ça, un petit peu n'importe comment. En fait, on dit par exemple qu'une création est en temps réel ou qu'une production est en temps réel quand par exemple l'image se produit au moment où on la regarde. Le fait qu'on ne diffère pas. Il n'y a pas, par exemple, des mois pour faire une peinture et puis ensuite des années pour la regarder. Au moment où on regarde l'image, elle est en train de se produire.
Ça, c'est quand même une différence fondamentale.
C'est une différence tout à fait fondamentale. Il y a une conséquence directe du temps réel, c'est un certain type d'interaction. Là aussi, il y a un malentendu. Beaucoup de gens s'imaginent que l'interaction, c'est donner la possibilité au public de décider ce qu'il va regarder. Et effectivement, si le Louvre et les grands musées étaient pleins d'œuvres où on aurait demandé au public de décider ce qu'on allait voir, il est probable qu'on verrait à peu près la même chose que ce qu'on trouve place du Tertre. Je n'ai rien contre les artistes, la place du Tertre. Mais les critères seraient forcément différents.
Donc en fait, ce n'est pas ce qui se passe. Mais il y a quand même une action du public sur ce qu'il voit, même s'il n'est pas maître.
Eh bien, pas nécessairement. C'est-à-dire qu'une des particularités donc de la production de son, de la production d'image ou de la production d'odeur, de chaleur en temps réel, c'est que ce qui est produit est la conséquence peut-être de la présence du spectateur, mais n'est pas forcément une conséquence de sa décision. Et tout d'un coup, vis-à-vis de l'œuvre, le spectateur est dans la même position que celle qu'il a dans le monde réel physique. Autrement dit, le monde réel physique reconnaît notre existence et est partiellement modifié par notre présence. Pas toujours autant qu'on le souhaiterait peut-être, mais en tout cas, ou des fois beaucoup trop. Mais en tout cas, il y a cette modification opère. Et bien là, cette modification opère dans l'œuvre. Et parce qu'on est différent, parce qu'on agit différemment, bien, peut-être que le résultat sera différent. Mais ce n'est même pas une nécessité, c'est toute l'ambiguïté de l'expression art numérique, c'est que ça peut recouvrir des choses qui sont très très loin du numérique, y compris par exemple tout ce qu'on appelle le bio-art, et qui constitue une des avancées les plus extrêmes et qui aurait été impossible sans le numérique, ou des pratiques qui sont très très proches de celles qu'on connaît depuis longtemps, qui sont de l'ordre de la production de l'image ou de la photographie par exemple. Voilà. La photographie numérique, si on vient m'expliquer que c'est une rupture épistémologique fondamentale, je vais quand même vraiment avoir du mal à l'avaler.
C'est pourtant ce que font certains philosophes comme Edmond Cuchot, qui pensent qu'effectivement il y a une rupture entre l'image numérique et l'image classique.
Qu'il y ait une rupture entre l'image numérique et l'image classique.
La photographie classique argentique, par exemple, disons, et la photographie numérique.
Oui, mais enfin, on pourrait discuter à quel niveau se situe la rupture et à partir de quel moment elle a un impact esthétique. Or, il se trouve que dans beaucoup de cas, et que pour tous ceux qui ont eu un appareil photo numérique à Noël, l'impact esthétique n'est pas totalement perceptible, je pense, pour le plus grand nombre.
Certainement, mais ça c'est pour effectivement le grand public, mais pas forcément pour les artistes. Les artistes ont sans doute un autre rapport. David Guèze, on a parlé du temps réel. Vous travaillez sur un temps d'une certaine façon différé, avec un autre projet qui peut peut-être illustrer la façon dont l'art numérique se matérialise, qui est le projet 2064.
Sept.
Alors, de quoi s'agit-il?
En fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me poser des questions par rapport au réseau Internet. Qu'est-ce que le réseau Internet ? Alors, on le pratique de plus en plus. Je crois qu'il est arrivé, c'était intéressant, enfin, votre question de dire, y a-t-il un art numérique qui est en train de naître ? Disons que le réseau, en tout cas, existe depuis une quinzaine d'années, est public depuis une dizaine d'années, et depuis 2-3 ans de plus en plus, ça se mesure en millions de personnes qui se connectent et qui le pratiquent. C'est intéressant pour moi de réfléchir un peu au-delà des pratiques usuelles. Et donc je me suis un peu projeté en disant, mais peut-être que en postulant que ce réseau à terme pouvait être une sorte de corps virtuel ou de conscience virtuelle, et que le fait de l'alimenter comme ça avec nos données, si on y réfléchit bien, on passe plusieurs heures par jour à rencontrer des gens, à chatter avec des personnes, à mettre nos photos, nos vidéos, à échanger. Donc juste une représentation comme ça, un peu symbolique, de se dire c'est un corps qui enfle, qui augmente, qui prend de la matière à l'humain. Et est-ce qu'au bout d'un certain temps, peut-être dans 20 ou 30 ans, il aura une spécificité qui lui sera propre, une propre conscience ? Donc je me suis beaucoup intéressé à cette idée liée à nos considérations à nous qui sont le temps qui passe, le temps absolu et le non-temps, donc la mort. Et donc je suis parti sur un projet assez simple en fait, qui est l'idée d'envoyer un email dans le futur, un message dans le futur. Alors effectivement, on peut toujours dire qu'on peut le faire hors le réseau. Mais là, l'intérêt, c'est que le réseau devient cet espace intermédiaire, ce corps virtuel, qui emmagasine et qui garde ces messages. Je peux très bien vous envoyer un email pour le 3 avril 2012 et vous allez effectivement le recevoir le 3 avril 2012. En même temps, moi j'ai écrit ce message aujourd'hui en pensant que vous allez le recevoir le 3 avril 2012. Donc il y a plein de considérations qui se mettent en place aussi par rapport à l'accès au réseau et à l'accès aux autres. C'est vraiment, si je veux résumer ça, c'est Internet devient un corps intermédiaire, un espace intermédiaire qui relie moi et l'autre. Alors moi et l'autre aujourd'hui, mais moi et l'autre avec la notion du temps aussi. Voilà, donc.
Avec des petits raffinements comme le fait que la personne à qui le message est adressé dans le futur est au courant de l'envoi de ce message immédiatement.
Oui, j'ai voulu garder cette option puisqu'il y avait quand même cette notion d'une part de désir entre deux personnes. Envoyer un message à quelqu'un sachant qu'elle va le savoir tout de suite, c'est créer un désir dans le temps aussi. C'est créer une attente. Et je trouvais que c'était très important de garder cette option puisque le fait de ne pas savoir qu'on a un message dans le futur enlève toute... pas tout intérêt, c'est quand même intéressant de le recevoir aussi par surprise, mais il y a vraiment cette notion de désir et d'attente. Et je crois qu'Internet peut créer du désir entre les gens, pas seulement via un club de rencontres ou un achat d'une PSP sur un site d'achat, mais aussi un vrai désir, quoi. Donc voilà, enfin, c'était un peu remettre du désir et quelque part un peu de beauté dans les rapports que ça peut créer, quoi.
Stéphane Maguet, c'est un projet comme celui-là, là, par exemple, de 2067, donc, d'envoi d'email dans le futur, pour vous, c'est une œuvre d'art ?
Oui, bien sûr.
Est-ce que ça peut se vendre, se commercialiser, s'acheter ?
Il y a deux questions. Oui. Est-ce que c'est quand même ? Il y a d'abord, est-ce que ça fait œuvre ? Est-ce que ça fait sens ? En tout cas, oui, pour moi, oui. Et si on veut la classer parmi une œuvre d'art numérique, oui, puisqu'il y a, j'ai envie de dire, il y a un récit. Comme disait David, il y a un désir qui est suscité, qui est envoyé, avec la frustration qui va avec. Donc pour moi, ça fait œuvre. Après, est-ce que ça peut se vendre ? La réponse est encore oui. C'est-à-dire qu'il y a des institutions qui achètent des œuvres de net art. Il n'y a pas que des institutions. Il y a des grandes entreprises qui achètent des œuvres de net art. C'est vrai que, à ma connaissance, en ce qui concerne des particuliers, je n'ai pas beaucoup d'exemples à citer sur des collectionneurs particuliers qui achèteraient des œuvres de de NetArt. Si, il y a le fameux exemple de Parcelle Réseau de Fred Forest en 96, mais encore, c'était pas vraiment un particulier. C'est quelqu'un qui l'a acheté dans un processus global de communication à la Fred Forest. Et c'était pas.
En deux mots, c'était quoi
Parcelle Réseau, donc en 96, c'était une œuvre que je n'ai pas vue, puisque seule la personne qui l'a achetée a pu en bénéficier, où finalement elle reposait sur le corps virtuel du réseau, et donc seul celui qui avait la clé pouvait en voir la manifestation pleine et entière. Je crois qu'il y a eu quelques photos, donc c'était une œuvre principalement visuelle, non participative, et donc c'était en gros quelque chose qui ressortait plutôt d'une œuvre plastique. Elle ne tirait pas forcément parti des spécificités du réseau. Enfin, je ne sais pas si mes camarades à cette table s'en rappellent plus que moi, mais c'était la première œuvre qui a été.
Oui, c'était très tôt, 96.
C'était très tôt, effectivement. Plus de 10 ans.
David Guez.
Pour rebondir sur cette idée de. Est-ce qu'une œuvre d'art numérique, parce qu'on va garder ce terme-là, même s'il est
il est très contesté, je vois bien autour de cette table.
Par exemple, cette idée de est-ce que 2067 peut être vendu, c'est vrai que ça paraît étrange, parce que c'est une œuvre qui va durer 60 ans, là, a priori.
Est-ce qu'elle est à vendre, d'abord?
D'abord, est-ce qu'elle est à vendre?
Est-ce qu'elle est à vendre? Mais il y a un support. Vous avez créé un logiciel pour dire de quoi il s'agit pour les auditeurs. Il s'agit quand même pas de simplement une idée. Il s'agit d'une idée concrétisée, au sens où il y a un logiciel qui fonctionne, qui existe, qui est sur Internet et qui gère ces envois de mails. C'est-à-dire que sans ce logiciel, le système ne peut pas fonctionner.
Bien sûr. Donc c'est vrai que dans les questionnements par rapport à des objets numériques comme ça qui circulent sur le réseau, il faut se poser la question de si on les vend, il faut vendre la technologie qui va avec éventuellement, il faut vendre la pérennité éventuelle. Là, c'est une œuvre qui doit durer 50 ans, donc 60 ans. Donc il faut une transmission du code dans les codes peut-être suivants. Tous ces questionnements propres à la mémoire, du coup, et aux technologies qui évoluent, qui changent très rapidement, de plus en plus rapidement, toutes ces questions se posent. Donc, si elle est à vendre, on vend quoi? Est-ce qu'on vend l'objet global? Est-ce qu'on vend... c'est vraiment intéressant comme question, parce qu'on peut, vendre un objet dérivé. Je crois que dans votre galerie, il y a des œuvres qui sont... où l'on vend des objets dérivés. Et ce n'est pas inintéressant. Le pop art a initié ça, puissance 10. Enfin, je veux dire, on est quand même les héritiers et de Duchamp et du pop art. Donc, ce n'est pas non plus... on peut très bien penser l'œuvre et les objets dérivés qui vont autour.
Maurice Benayoun, l'envoi de mail dans le futur, pour vous, c'est une œuvre d'art?
À partir du moment où l'intention est une intention symbolique, tout à fait. Il n'y a aucune raison d'émettre des réserves. Mais je voudrais surtout que l'on comprenne que la plupart des créations sur le net sont d'abord des questionnements, sont d'abord une façon d'exposer une problématique particulière. Là, par exemple, c'est la question de la temporalité et la question de la relation entre deux individus dans le temps. Il y a une autre question qui est évoquée qui est est-ce que tout ça peut devenir une valeur marchande ? Dans le travail de Fred Forest, il y a le questionnement même de ce que peut être une valeur, la valeur marchande de quelque chose qui pourrait être donné à tout le monde et qu'on le limite à un tirage unique. Et je crois que celui qui l'avait acquis, qui était une société, une start-up à l'époque, avait l'intention de le rendre public. C'était une image. Après tout, il ne faisait que vendre une image. L'œuvre de Fred à ce moment-là n'était pas une œuvre sur Internet, était l'ensemble du dispositif, y compris le dispositif de communication autour de l'œuvre, y compris la vente aux enchères, et l'image était un peu le MacGuffin de Hitchcock. C'était un peu cette chose, tout le monde court après, mais d'une certaine manière, on n'est pas très intéressé de savoir ce qu'il y avait dessus. Puisque ça n'est en fait pas l'objet.
C'est bien le désir voilà. C'est ça.
Alors, pour la question de la lettre dans le futur, il se trouve que j'en ai entendu parler sur France Inter le matin, et comme j'ai un blog qui s'appelle The Dump, sur lequel je mets tous les jours un nouveau projet, j'ai fait un projet immédiatement qui est en réaction, donc où David est mentionné, qui s'appelle Pas de fleurs coupées pour Florence. Donc ce projet s'appelle Pas de fleurs coupées pour Florence, où j'explique que une des propriétés, effectivement, de ces technologies, rendues possibles par ces technologies, c'est la question, justement, du travail, du devenir comme matériau. Et donc de la temporalité comme matériau. Or, il y a plusieurs degrés dans le travail de cette temporalité. Soit on la fait exister, on se dit, ben, faut maintenir le matériel, et ça va prendre, disons, 60 ans, et pendant ces 60 ans, on essaye de maintenir. Soit on se dit que le message lui-même va vivre sa vie et évoluer dans le temps, comme le modèle qui est un des modèles les plus utilisés en matière de création générative, c'est-à-dire le modèle biologique, qui subit des évolutions et qui, d'une certaine manière, porte un message d'une nature différente dans le temps. Donc je propose de faire quelque chose qui est plus de l'ordre de la plante qui va évoluer dans le temps, qui va peut-être mourir entre-temps, mais du message qui aura une autre ampleur au moment où il attendra la dessinatrice Florence, donc mon épouse.
Et comment pourra-t-il évoluer dans le temps ?
Eh bien, il peut évoluer parce que très souvent, ce qui fait œuvre, c'est moins l'image ou le texte résultat que le processus qui se déroule selon des principes que l'on définit. Donc l'auteur définit justement les règles d'évolution et de vie de son œuvre. Ça, c'est une des orientations. Je ne voudrais pas dire que tout devrait être comme ça. Mais en tout cas, c'est une des orientations de ces formes de création. Et donc, un peu comme le jardinier du XVIIe siècle qui plante son jardin en sachant qu'à telle saison, les plantes seront comme ceci ou comme cela, que celles-ci vont grandir, d'autres vont prendre d'autres couleurs, que les parcours vont permettre de découvrir des significations et des symboliques différentes. Eh bien, on fait un programme qui, d'une certaine manière, va créer des mutations. Et ces mutations-là, elles sont censées, contrairement aux mutations de l'espace physique que nous connaissons, être porteuses de sens.
Comme un Tamagotchi.
Le Tamagotchi est sur le même modèle. Lui est très strictement sur le modèle organique, avec une réduction très forte de la dimension symbolique. Et donc, c'est une dimension. La dimension symbolique du Tamagotchi est de l'ordre du fétichisme, c'est-à-dire réduite à la relation à l'objet.
Certes, mais c'était une virtualisation déjà à l'époque de ce processus qui a eu un impact très très fort sur le public puisque le succès a été énorme et planétaire.
Tout à fait. Mais ça, c'est justement le versant des applications commerciales de réflexion qui justement se trouve plus dans le champ soit de la recherche scientifique, soit de la recherche artistique.
Alors je voudrais quand même, dans ces exemples que nous donnons, parler aussi d'une autre composante que vous avez explorée, Maurice Benayoun, qui est l'espace. Car on peut jouer avec le temps, comme le fait David Guez avec le futur, mais on peut jouer aussi sur la distance, en l'annulant par exemple, ou en créant ce que vous avez appelé des tunnels entre un lieu et un autre. Maurice Benayoun.
Oui, effectivement, il faut reconnaître qu'au fur et à mesure que le numérique infiltrait un petit peu tous les champs d'action, eh bien, il permettait de se reposer les questions de la représentation de l'espace, de la représentation du temps, et de comment on les vit, et comment l'œuvre se construit à partir de cette nouvelle donne. C'est une nouvelle donne. Donc, en 95, effectivement, j'ai créé un dispositif qui était entre le Centre Pompidou et le Musée d'art contemporain de Montréal, qui s'appelait le tunnel sous l'Atlantique. Et donc j'ai proposé au public des deux musées d'essayer de se rencontrer en creusant symboliquement, on va dire, c'est-à-dire en creusant dans des images devenues des blocs de matière. Et donc il a fallu 5 jours. Le public revenait régulièrement, 1 à 2 heures par jour, et puis creusait. En fait, en avançant, c'est l'empreinte même du corps qui construisait l'architecture du tunnel. Et les images, c'est les images de la mémoire commune de la France et du Canada. On était dans cette relation-là où finalement la culture faisait obstacle et il fallait avancer, aller vers la voie de l'autre pour finalement se rencontrer après 5 jours. Alors je crois qu'on a un petit extrait qui nous permet d'entendre la première rencontre sur le tunnel.
On te voit Montréal.
Oui, on vous voit.
Salut, Mathieu.
Oui. Je vous vois.
Oui.
Vous êtes rouge avec un col blond.
Absolument.
Donc c'était la jonction attendue, mais virtuelle, d'une certaine façon, puisque les gens sont restés chacun dans leur pays.
Alors, ce qui est tout à fait intéressant, je crois, c'est que justement, on nous a tellement bassinés, si je peux me permettre, avec les questions de transmission d'informations et l'autoroute de l'information, à l'époque, on en parlait beaucoup, on entend bien là qu'il ne s'agit absolument pas de transmission d'informations. On entend bien là que c'est des gens qui sont juste heureux de se rencontrer sans avoir d'autres messages à passer que le fait d'avoir établi le contact.
Un art numérique est-il en train de naître ? C'est le thème de notre débat aujourd'hui dans Sciences Publiques. Nos invités sont Maurice Benayoun, artiste transmédia, comme il se définit, professeur à l'Université Paris 1, cofondateur et directeur artistique du CITU, un centre de création interactive transdisciplinaire universitaire. David Guez est informaticien de formation, artiste nouveau média, pionnier de la télévision sur Internet et auteur de plusieurs projets, dont 2067, dont il vient de nous parler, et qui propose d'envoyer des emails dans le futur. Et Stéphane Maguet, philosophe, directeur de la galerie Numeris Causa, créée en 2004 pour aider les artistes du numérique à produire et à diffuser leurs œuvres. Alors David Guez, est-ce que vous allez transformer votre projet 2067 en quelque chose de vivant et qui va avoir sa propre vie, comme le suggère Maurice Benayoun, puisque là, en direct, nous avons finalement des propositions qui se mêlent ou qui se rencontrent.
L'évolution du projet, c'est l'idée de l'hypermoi. Cette idée, en fait, le 2067, c'est le premier projet d'une série qui s'appelle Hypermoi. C'est l'idée que on a un moi, le moi psychanalytique, et avec Internet est en train de se mettre en place. Alors c'est une hypothèse, c'est une, l'idée d'un hypermoi, c'est-à-dire un moi relié au réseau. Donc mon prochain projet, en tout cas qui va travailler sur ces objets-là, ça va être l'idée du fantôme, une sorte de fantôme. C'est-à-dire que l'idée, c'est de créer, de vraiment mettre en place son corps virtuel, mais le sien, cette fois-là, son corps sur Internet, en partant d'un postulat assez simple qui est évidemment faux, mais que nous sommes chacun la somme de nos désirs et de nos souvenirs. C'est pas suffisant, mais c'est déjà un bon début. Donc je suis en train de mettre en place une interface qui va permettre de mettre ses souvenirs, alors en temps réel ou pas, mais de créer comme ça une sorte de fantôme de nous-mêmes qui nous survivra, puisque on peut partir du postulat qu'Internet nous survivra à tous ici, au moins, enfin le réseau, les réseaux, même s'il prendra différentes formes. Et donc à terme, on est ces informations qui nous sont reliées. Sachant qu'on n'existe que par les autres aussi, surtout notre mémoire, et que là, elle existera dans le réseau en soi et pourra être accessible plus ou moins après de différentes façons.
On peut aller jusqu'à imaginer qu'elle soit interrogeable par, dans le futur par des gens qui nous survivront, un petit peu l'idée.
Voilà, tout à fait, qu'elle soit aussi interactive, enfin que deux hypermoi puissent... C'est échanger des informations sur des souvenirs communs, par exemple.
Donc sans intervention autre que ces deux hypermois ou avec intervention
d'un être avec humain. Avec ou sans, je crois que tout est possible après.
Avec ou sans. Stéphane Maguet, quels sont les auteurs que vous recevez ? Quelle est un petit peu aujourd'hui la population de créateurs dans ce domaine ? Et quels problèmes particuliers vous rencontrez avec... dans les relations que vous pouvez créer avec les artistes numériques.
Alors pour répondre, on a plusieurs, effectivement, il y a quelques typologies d'artistes ou d'auteurs avec lesquels on peut travailler. Enfin, finalement, je les regrouperai en deux parties, c'est-à-dire c'est soit on a des artistes programmeurs, qui eux-mêmes, comme David, ont une maîtrise de la programmation ou de l'électronique, choses comme ça, qui vont être autonomes par rapport à leur propre création, ce qui est quand même, ce qui n'est pas la chose la plus répandue. Et puis à côté de ça, on a des artistes qui viennent nous voir avec un projet, et puis on va agglomérer autour de leur projet les équipes qu'il va falloir, tel électronicien, tel développeur ou telle équipe de développement ou tels ingénieurs pour mener à bien leur projet en fait. Et quand je disais qu'il y avait effectivement une modification du statut de l'artiste, c'est vrai que bon, sur les arts dits numériques, on a souvent des œuvres où une personne ne suffit pas, entre guillemets, il faut une somme de compétences. Alors après, c'est soit des co-signatures, soit la métaphore du réalisateur, donc c'est-à-dire l'artiste, et puis ceux qui réalisent, l'équipe qui réalise pour lui. Il n'y a pas de problème particulier, si ce n'est que, bon, alors du point de vue du droit, tout ça devient un peu plus compliqué, puisqu'il y a plein de il y a pas mal d'intervenants. Non, les problèmes ensuite, c'est je reviens sur la vente, c'est puisque on a une galerie à destination, on a vocation à vendre. L'art numérique, c'est quand même pas facile à vendre. On parlait des œuvres en réseau tout à l'heure. Bon, celles-ci, c'est vrai que c'est peut-être celles qui sont les plus difficiles, parce que il y a une singularité et une matérialité traditionnelle du marché de l'art. Là, on a pas mal de problèmes. C'est dans le numérique, la copie égal à l'original, et le marché de l'art, lui, c'est exactement le contraire. Ce qui fait la valeur d'une œuvre, ça va être sa singularité, le fait qu'elle soit unique. Donc effectivement, donc il y a un gros travail pour expliquer, convaincre, imaginer ce que sera une œuvre dans 10, 15, 20 ans, proposer des solutions à la fois sur la pérennité de l'œuvre elle-même, et puis bien sûr, la pérennité d'un modèle. Il y a des institutions comme la Fondation Langlois, le SAT, le Guggenheim, qui réfléchissent à la pérennité des médias dits variables, ceux avec lesquels nous travaillons.
Alors, Maurice Benayoun, on voit que souvent c'est un événement. Vous parlez très souvent également tous de projets plus que d'œuvres, ce qui donne quand même peut-être une connotation un peu différente à ce qu'elle représente. Vous avez aussi la possibilité parfois de créer des objets à partir d'une œuvre qui n'est pas simplement, qui ne se résume pas à cet objet, mais qui en est la source. C'est le cas de ce travail que vous faites sur Internet et sur les émotions qui peuvent apparaître à travers des moteurs de recherche. Comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça produit au final ?
Alors là, c'est un projet sur lequel je travaille depuis maintenant 2 ans, sur un concept qui date d'il y a plus de 10 ans maintenant, ce qui montre bien que c'est longtemps un projet avant de devenir une réalité. Je crois que c'est une donnée véritable, surtout quand on ne fait pas soi-même la programmation. Moi, je suis plasticien au départ, hein, je ne suis pas du tout informaticien, donc j'ai besoin des compétences, parfois coûteuses d'ailleurs, pour que les choses commencent à exister. Donc la mécanique des émotions, ça part d'un principe extrêmement simple, qui va un peu dans le sens de ce qu'évoquait David tout à l'heure, c'est-à-dire finalement cette métaphore macluhanienne de la technologie comme extension du corps. Et donc, Internet serait le système nerveux mondial. Qu'est-ce qui se passe si notre système nerveux nous parle que de certaines parties du corps ? Qu'est-ce qui se passe si d'autres parties sont complètement occultées ? Si c'est un système nerveux, il est censé pouvoir nous dire ce que sont les douleurs et les plaisirs de la planète. Donc, le projet de la mécanique des émotions commence par un travail de cartographie des émotions du monde. Cartographie fondée sur l'analyse du réseau et l'analyse par les moteurs de recherche qui portent sur les news, notamment Google News. Et à partir de là, donc sur 3200 villes, eh bien j'établis des cartes qui montrent les intensités pour chaque émotion et qui donnent un peu l'impression comme de nuages émotionnels qui évolueraient en fonction de la situation planétaire.
Donc là, l'instrument de mesure, la sonde d'une certaine façon, c'est le mot lui-même qui est injecté dans ces moteurs de recherche et qui ensuite permet de créer cette cartographie mondiale.
Alors, effectivement, il faut bien comprendre que je ne parle pas ici d'un outil scientifique, mais bien d'un objet symbolique qui consiste à faire des cartes par l'analyse de l'usage des mots reliés à des lieux. Et donc, c'est la verbalisation. Et là, on se rend bien compte que la dominance, par exemple, la domination de la langue anglaise sur le net a un impact immédiat sur le fait que l'Afrique est plus difficile à percevoir sur les cartes. Et évidemment, c'est un des propos, c'est de ça dont il s'agit, quoi. Il s'agit bien de savoir, de se poser la question de qu'est-ce que veut dire représenter le monde d'une certaine manière aujourd'hui. Et de quel monde parlons-nous? Et quelle forme prennent ces représentations? Et comment les médias, finalement, nous produisent des représentations qui sont peut-être illusoires, même si on a l'impression qu'elles s'affinent.
Donc en réalité, on envoie, par exemple, dans votre système, un mot comme guerre ou amour, et on obtient une cartographie avec des espèces de courbes de niveau qui vont représenter l'intensité de ce mot, c'est-à-dire en gros la quantité de fois où il est utilisé, par exemple, dans les nouvelles. Et suivant, donc, le lieu du monde considéré.
Absolument. Par exemple, j'utilise le mot « terrified », »,« terrifié ». Eh bien, on se rend compte qu'à Paris, si on fait « terrified Paris », on a quelque chose comme 12 723 850 réponses. Et si on fait « terrified New York », on a 153 625 000, parce que les deux mots sont associés quelque part sur le net. Donc on se rend bien compte que l'exercice est un petit peu artificiel.
Il dépend du nombre d'internautes, par exemple.
Il dépend de beaucoup de facteurs. Alors, j'applique quand même quelques petits filtres, mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces représentations des émotions du monde, je me dis, voilà, si on suppose que le rôle de l'artiste est d'une part de représenter le monde et d'autre part de convertir la représentation en valeur marchande, puisque justement, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, eh bien j'essaye de voir quels pourraient être les produits dérivés des émotions du monde. Donc l'ensemble du projet de la mécanique des émotions, qui relève aussi de la dynamique des flux émotionnels, on pourrait dire, eh bien l'ensemble du projet est un projet symbolique, une espèce d'opéra en 18 pièces pour l'instant, qui comprend des performances musicales, notamment avec Jean-Baptiste Barrière, en ouverture d'Ars Electronica l'année dernière, ça s'appelait Emotional Traffic, mais aussi à Shanghai, c'était un Emotional Market qui consistait à transformer une galerie en boutique de luxe où des instantanés des émotions du monde qui étaient devenus des sculptures, ce que j'appelle les frozen feelings, étaient présentés comme des objets de luxe à côté des cartes.
C'est-à-dire là, ça se présente sous une forme d'une galette, d'une sphère, comment on peut dire pour se le représenter?
Imaginez qu'une sphère a un relief et que ce relief est le relief émotionnel plutôt que le relief géologique.
Correspondant au mot en question.
Voilà. Et cette sphère, je la dégonfle virtuellement, et ensuite, avec un outil, une fraiseuse numérique, eh bien, je fais une sculpture qui part de ces données. Et donc, je sculpte un objet assez plat, de 30 cm de diamètre, et qui est gravé en spirale, comme un micro-sillon.
David Guez, vous travaillez sur un projet qui s'appelle 1400 cm3. De quoi s'agit-il?
Alors déjà, 1400 cm3, c'est la taille du cerveau, le volume du cerveau. Voilà, pardon, ça c'était pour la petite histoire.
Et non pas la cylindrée de votre mobilette.
une sous 49.9. non, en fait, ce qui est intéressant et ce que fait Maurice, effectivement, avec ses projets, c'est que quand même, avec Internet, on peut s'attaquer à du gros, quoi. Et ça, c'est pas mal et c'est assez excitant. C'est-à-dire que, voilà, depuis 2-3 ans, on parle des blogs et il y a un phénomène de mode énorme autour du blog avec beaucoup de choses qui sont dites et qui sont fausses. Donc moi, je me suis posé la question, je me dis, je vais faire un blog. Enfin, j'ai envie de faire un blog, bien que mon premier projet en 96, c'était un blog déjà, sans le nommer. Et donc, bon, voilà, j'ai vraiment cherché comment je pourrais faire un blog et je n'ai pas trouvé un blog qui m'intéressait, qui était pertinent, qui était assez marrant pour mettre des textes, des photos, etc. Donc voilà, donc je me dis, je vais créer une plateforme de type blog qui m'intéresse. Donc j'ai créé ce que j'ai appelé l'hyperblog parce que je voulais avoir plusieurs fenêtres en même temps qui puissent bouger, qui puissent intégrer n'importe quelle technologie du ce qu'on appelle le Web 2. Voilà. Et j'en ai fait une plateforme communautaire parce que aussi ça m'intéressait et ça m'intéresse toujours de travailler sur des contre-modèles, des modèles émergents sur le net qui sont énormes, quoi. Alors j'ai pu faire en 2000 Téléweb qui était un site où chacun pouvait créer sa Web TV. Donc, qui était un peu en opposition avec Canal Web à l'époque, qui était une des startups montantes de la Web TV. Bon, aujourd'hui, on sait que YouTube a été vendu, donc qui est exactement la même chose, a été vendu 16 milliards de dollars, je crois. Enfin, c'est un chiffre tellement astronomique qu'on n'arrive jamais à le retrouver.
Vous étiez un peu trop en avance quoi, à l'époque.
Bah, je crois que c'est un peu ça aussi la fonction de l'artiste, c'est comme il est toujours à se poser les questions sur les systèmes, à essayer justement de peut-être sortir des systèmes, de trouver des contre-modèles. Inévitablement, il tombe sur des projets. C'est des projets au départ effectivement qui vont questionner une pratique, une fonction de la société. Alors 1400 cm3, je l'ai au départ lancé un peu plus pour moi, pour travailler. Et il s'est avéré que ça commence à être un... Alors là, je le pousse un peu, mais ça commence à être un concurrent, entre guillemets, mais en tout cas potentiellement un concurrent à MySpace, à Skyblog, puisqu'il y a plein de jeunes de 15-16 ans qui viennent faire leur hyperblog sur 1400 cm3.
Donc là, l'intérêt, c'est d'avoir des outils très simples pour pouvoir fabriquer visuellement une disposition des informations qu'on veut publier qui soit très, très différente de ce qu'on connaît.
Sur les blogs classiques qui sont assez linéaires, hein, on poste un billet, puis il y a une sorte de ligne comme ça qui s'enfonce. Là, j'ai voulu faire un système multi-fenêtrage, un peu comme sous Mac ou Windows, et surtout à l'intérieur, on peut mettre n'importe quoi. C'est-à-dire, je peux mettre un Google Agenda, je peux mettre un Google Maps, je peux mettre une vidéo de Dailymotion, un texte. Il n'y a pas de limite à l'intégration dans chaque fenêtre de ce que je peux mettre de l'extérieur, quoi. Mais ce qui est surtout drôle, enfin, c'est que un projet comme ça qui au départ, commence à être pris par des jeunes qui vont faire leur MySpace à l'intérieur, en fait.
Et peut-être MySpace a démarré de la même façon, hein, d'une façon assez discrète au départ, et ensuite
l'application
très rapide.
Ouais, mais l'intention, je pense, c'était pas la même. Après, il y a une question d'intention et de cette idée de contre-modèle. Ce que je voulais juste parler de ça une minute, c'est-à-dire que on a des œuvres numériques, on a des questionnements sur le réseau, etc., qui proposent aussi des contre-modèles et économiques et sociaux et communautaires. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la question de l'objet, mais c'est la question aussi de la communauté et de ce que ça peut générer comme pratique aussi. Et comme, je veux dire, de plus en plus, il y a des groupes communautaires qui se créent dans le réseau, des gens même qui se connaissent pas, mais qui se relient entre eux pour mettre en place des actions. Et ça, c'est très intéressant parce que ça peut être aussi une forme artistique dérivée, si vous voulez, de dire, mais Internet permet à des gens qui ne sont pas spécialement des artistes de mettre en place des modèles qui vont au-delà des modèles classiques économiques. Alors, c'est vrai avec la télé, c'est vrai, on fait sa propre télé, on fait sa propre radio, mais on va aussi agir en lobbying sur un groupe de pression. On voit aux États-Unis actuellement que les blogs personnels ont une influence forte sur un candidat. Enfin, en France aussi, on a bien vu tous les candidats qui ont créé leur blog pour justement tenir cette pression des blogueurs qui influencent un avis, qui changent une... donc c'est quand même assez important, je trouve, ça, d'en parler.
Stéphane Maguet, comment vous voyez-vous un peu l'avenir en termes de, justement, d'accès du public à ce qu'on peut appeler les œuvres qui dérivent de cet univers numérique où Internet, etc., joue un rôle important? Comment vous voyez un petit peu les choses se profiler?
En ce qui concerne les œuvres, ça va suivre une diffusion générale des technologies, enfin, qui depuis 10 ans, il suffit d'aller dans n'importe quel vendeur de technologies au moment de Noël pour voir que c'est très très largement diffusé. Les œuvres vont suivre le même chemin avec avec des différences de par exemple nous, une de nos spécificités, c'est qu'on aime bien plutôt que, enfin, on aime bien les collectionneurs classiques, mais ce qui m'intéresse, c'est de créer des nouveaux publics de collectionneurs, c'est-à-dire des gens qui ont 30 ans. Moi, je suis très heureux quand j'arrive à vendre une œuvre à quelqu'un qui n'a jamais collectionné à ce jour. Et souvent, ce sont des gens qui n'ont pas du tout le même profil que ce qu'on peut imaginer d'un archétype de collectionneur d'art moderne ou quoi que ce soit. Donc, pour répondre à votre question, c'est même si on va avoir des œuvres, bien sûr, et aussi question de pardon, d'économie. C'est-à-dire, il y a des œuvres à 150 euros et puis il y a des œuvres à 15 000 euros.
À 150 euros, c'est que des œuvres se présentent sous quelle forme ?
À 150 euros, ben, ça peut être à la fois des petites photographies ou je sais que il y a une collection qui s'appelle Art Net Art, qui est tenue par Michel Maillet, où vous trouvez une collection de DVD, où là, bien sûr, on n'est pas dans un registre d'œuvres temps réel, générative, interactive, mais quelque chose de plus classique qui ressort de la vidéo ou du cinéma. Et c'est des œuvres qui sont, je crois, qui étaient à 39 euros.
C'est des DVD à 39 euros.
C'est des DVD à 39 euros et qu'on retrouve à la fois...
Pour écran plat, HD, quoi. Voilà,
voilà, et qu'on retrouve à la fois dans des magasins de grande distribution, qu'on retrouve à la FIAC, à la Foire internationale d'art contemporain, et puis qu'on va retrouver chez les plus grands galeristes parisiens, comme Yvon Lambert, qui présentait une œuvre de cette collection Art Net Art.
Et à 15 000 euros, vous parliez de cette gamme, alors pour avoir une idée des deux extrêmes.
Ah, bah alors après, là récemment, j'ai vendu une œuvre du collectif Music to High, qui est donc une œuvre temps réel, participative. C'est une œuvre qui s'appelle Linéa, qui est un hommage à l'art cinétique, à l'art optique. Et c'est une œuvre donc, qui était éditée à 3 exemplaires et qui était vendu 6 000 euros, je crois.
Et là, qu'est-ce qu'on achète dans ce cas-là ?
Alors, qu'est-ce qu'on achète à ce prix-là ? Nous, on ne vend pas de logiciel. On ne vend pas un CD avec un logiciel dessus. Ce qu'on vend, c'est une petite machine qui ressemble pas à un ordinateur. C'est la machine qui est signée. Et donc, vous avez un certificat d'authenticité. Et puis après, y a la manière dont on propose, par exemple, l'artiste propose une scénographie bien spécifique. Et puis, le collectionneur achète le plasma qui est enchâssé dans une espèce de coque. Et puis, on n'a pas le sentiment d'avoir un ordinateur, on a plus l'impression d'avoir un tableau vivant chez soi.
D'accord, c'est quand même un système qui fonctionne tout seul, qui est autonome.
Ah, c'est un système, vous voyez, par exemple, les collectionneurs d'art numérique, il y a 3 ans, ils disaient, ah, c'est très très beau, mais ça c'est pour les institutions. Il y a un an et demi, ils se posaient des questions de conservation, c'est-à-dire, ah, mais ça chez moi, est-ce que ça marcherait ? Bon, maintenant, ceux qui font le pas à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a tendance à rendre ça aussi fiable et aussi sécurisant qu'une lampe, c'est-à-dire les œuvres d'art numérique aujourd'hui, si on veut les vendre, elles doivent être aussi simples qu'une lampe. Et puis quand votre lampe est cassée, qu'est-ce que vous faites ? Vous la ramenez à celui qui vous l'a... Mais il n'y a pas ce potentiel de défiance psychologique de l'informatique. Ça ne marche pas.
Maurice Benayoun, vous avez l'air moins intéressé par la vente de vos œuvres de cette façon. Vous avez l'air plus orienté vers des événements ou bien des institutions qui pourraient être intéressées par vos... ou des expositions qui pourraient être intéressées par vos œuvres. Est-ce que c'est le cas ?
Ben, il est vrai que, disons, au cours de ces 15-20 dernières années, il était beaucoup plus facile, c'était beaucoup plus logique, on va dire, de concevoir qu'une œuvre se produisait pour une présentation précise, et on était de l'ordre de la production audiovisuelle. C'est-à-dire qu'on réunissait, comme le disait Stéphane tout à l'heure, une équipe complexe pour mettre sur pied, comme le tunnel sous l'Atlantique ou d'autres dispositifs de cet ordre.
Mais sauf que c'était pour une seule fois, quoi.
C'était parce que en fait, la technologie derrière était très très lourde. Ce qui a évidemment énormément évolué, c'est que maintenant, c'est les choses que l'on fait avec un PC ordinaire. Et donc, à partir du moment où la technologie s'est banalisée, on peut clairement mettre en avant justement la dimension esthétique du projet. Et je crois que c'est ce qu'on fait maintenant, ce qui fait que maintenant, effectivement, ça m'arrive de travailler avec des galeries. Il y a des installations anciennes qui sont maintenant portées sur PC et donc qui peuvent faire partie de collections. Et donc, c'est quelque chose que je ne rejette absolument pas, parce que c'est une nécessité aussi. Il faut bien le voir. Il faut quand même pas oublier ça, c'est que pour pouvoir faire de nouvelles œuvres et pour ne pas attendre 10 ans pour faire un projet, eh bien, il faut trouver les moyens de le produire. Et rien de tel que déjà de vendre les précédents pour pouvoir continuer d'en faire d'autres.
Est-ce que vous avez l'impression que l'art numérique...
C'est un petit peu difficile d'échapper à ce... Ou sinon, effectivement, on reste dans un réseau très institutionnel de grands musées qui peuvent se permettre des grands dispositifs ponctuellement.
Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'art numérique est quand même mal perçu par le milieu artistique et un peu marginal encore?
Dans le milieu de l'art contemporain, il y a effectivement chez un certain nombre de personnes, ça peut être un problème générationnel aussi, hein, chez un certain nombre de personnes, il y a une réticence à admettre que cette évolution est possible parce qu'elle demande parfois une mutation. Moins dans l'aspect conceptuel des projets, mais dans la manière de les interpréter, de les analyser. Et il est vrai que ceux qui décrivent des créations plus, on pourrait presque dire traditionnelles, n'ont pas les outils d'analyse du type de production que l'on évoque là. Et ça, c'est un vrai problème. Et donc, quand on est démuni, quand on ne sait pas comment interpréter, qu'on utilise finalement des grilles d'interprétation qui sont plus tout à fait adaptées, eh bien on préfère dire, écoutez, les raisins sont trop verts.
Notre débat d'aujourd'hui s'achève. Merci à nos invités, Maurice Benayoun, David Guez et Stéphane Maguet. Vous trouverez sur le site de Sciences Publiques des références d'ouvrages et des sites internet sur l'art numérique, en particulier l'ouvrage d'Edmond Couchot et Norbert Hiller, L'art numérique, comment la technologie vient au monde de l'art, publié en 2003 chez Flammarion et qui, lui, par rapport à l'avis de nos invités, est beaucoup plus favorable à l'expression art numérique, mais également d'autres ouvrages comme Art et nouvelles technologies de Florence Merdieu, chez Larousse. Vous trouverez également les adresses des sites de nos invités sur le blog de Sciences Publiques. Vous pouvez publier vos questions et réflexions sur les thèmes de nos futures émissions. Le 12 janvier, nous aborderons la question des limites de l'imagerie médicale, jusqu'où iront ces progrès spectaculaires avec les scanners et de nouveaux instruments comme celui de Neurospin qui a été inauguré fin 2006. Quels nouveaux horizons s'ouvrent ainsi à la médecine? Quelle perception de notre corps engendre une telle révélation de ses composants les plus intimes? Nos invités seront Hervé Le Bihan, Guy Frigeat, Stanislas Dehaene et Alain Berthoz. Le 19 janvier, changement de décor avec les virus informatiques et donc retour au numérique. Nous demanderons à nos invités si le piratage est en train de se transformer en cybermafia. Les artistes de la programmation que sont les auteurs de virus sont-ils en train de céder la place à des bandits de la toile qui cherchent moins l'exploit technique que le vol pur et simple? Nos invités seront Stéphane Lunier, Patrick Payou, Yvon Klein et Hervé Schauer. Sur le blog du site de Sciences Publiques sur franceculture.com, je vous rappelle que nous attendons vos questions donc sur les thèmes de ces prochains débats. Vous pouvez également nous communiquer vos suggestions de sujets d'émission, soit sur le blog, soit par mail. Toujours sur le site de Sciences Publiques, vous pouvez réécouter cette émission pendant un mois et la podcaster pendant une semaine. Sciences Publiques, une émission de Michel Alberganti, préparée et mise en ligne par Catherine Donnet, avec Nathalie Triandafilides à la réalisation et Ariane Herblay à la technique. La science continue sur France Culture avec lundi prochain à 14h l'émission Continent Science de Stéphane Delis-Georges. Pour l'instant, il sera très bientôt 15h sur France Culture et nous vous laissons en compagnie de Toufik Hakem pour Triple Détente. Merci à tous, bonne année 2007 et à vendredi prochain.